beaucoup de choses à rajouter à ce qu'on a déjà partagé ce matin. Et pourtant, on va être amené à lire un texte qui nous parlera encore, je pense. Nous admirons et envions parfois ceux qui ont réussi dans la vie. Et nous retenons surtout le résultat. Ah, ils sont arrivés! Et pourtant, nous oublions souvent, et nous ne cherchons guère à savoir, par où ils ont dû passer pour arriver là. Mais nous sommes prêts à les imiter dans leurs efforts pour arriver là? C'est une question qui se pose. Depuis le début de l'année, les prédications portent sur la lettre aux Hébreux, dont l'auteur nous encourage et il nous avertit aussi plusieurs fois sur la manière dont nous vivons notre foi. La foi véritable, celle qui n'a rien de statique, celle qui a un coût et qui peut être en danger. Et dans Hébreux 11, qu'on a lu il y a 15 jours, pour ceux qui étaient là, il y a une longue liste de personnes qui, au fil des siècles, ont cru en Dieu, et leur foi nous est donnée en exemple ce matin. Et nous arrivons aujourd'hui donc au chapitre 12, dont il a déjà été parlé très courtement pour les premiers versets, et nous sommes appelés ici, dans ce chapitre 12, à les imiter. Et nous voulons lire d'abord maintenant ce texte, et si quelques-uns veulent prendre chaque fois une des dias pour lire ce qui est écrit.
Quelqu'un peut commencer.
Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par une vie courageuse.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché, et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas?
Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous sont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de frais, de paix, de justice. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flagellants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas plus tôt qu'il soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la progression de la sainteté. Sans celle, personne ne verra le Seigneur.
Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes.
Un passage de, comme ceux qu'on ne lit pas trop souvent avec conviction et avec l'assurance que c'est aussi celui qui s'adresse à moi peut-être. Nous venons ici à des conclusions pratiques et aux dernières exhortations, et ce ne sont pas les moindres. Ici, l'auteur nous demande de voir d'abord qu'il n'est pas question d'une foi statique, je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas de faire du surplace. Nous donc aussi courons avec persévérance, et l'exemple suprême est celui du Seigneur Jésus. Deuxième chose, il nous est dit, et c'est justement cela que nous aimons sans doute le moins, Dieu nous éduque comme un père. C'est la part de Dieu. Il éduque, il corrige comme un père. Et nous, nous avons aussi notre part à la suite des interventions de Dieu dans notre vie. Et nous sommes encouragés à ce que la vie de Christ se manifeste dans les moindres détails de la vie quotidienne. Ça doit se voir. Nous voulons prier. Seigneur, nous lisons cette parole, peut-être avec crainte, peut-être avec stupeur, peut-être en se disant « si seulement je pouvais passer plus loin ». Nous voulons croire que toi, tu veux nous parler ce matin, comme nous en avons besoin. Oui, nous sommes dans la joie parce que Jésus est ressuscité. Oui, nous sommes dans la joie parce qu'il est venu pour nous donner la vie. Oui, il est venu aussi pour que nous le suivions et pour que nous apprenions à marcher avec lui pour l'aimer. Parle maintenant à chacun d'entre nous dans ta bonté. Amen. Nombreux sont ceux qui applaudissent les athlètes en étant assis dans leur fauteuil. Ici, il est question de ne pas s'asseoir dans le fauteuil, mais de courir. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Nous avons des exemples dans le chapitre précédent pour nous encourager à faire comme eux. Ce n'est pas pour que nous simplement nous les admirions. Ce n'est pas simplement pour que nous disions « Ah oui, ça c'était super, la façon dont Abraham a obéi à Dieu, la façon dont David l'a suivi, la façon dont le prophète Jérémie a tenu ferme pendant 50 ans et davantage. » Nous donc aussi rejetons le fardeau, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Suivez ces exemples. Ce n'est pas de l'impossible que le Seigneur nous demande. Et nous avons besoin de nous mettre dans de bonnes conditions. Première chose, en rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Pas d'encombrement inutile. La foi qui nous est proposée, la vie de foi qui nous est proposée, est une course de fond. Il s'agit de courir, d'aller de l'avant, il s'agit d'aller jusqu'au bout avec persévérance. Courir, est-ce que c'est ainsi que je vois la vie avec Dieu? Et pour insister, l'auteur de la lettre nous donne l'exemple suprême, savoir l'exemple de Jésus. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Jésus, le Seigneur Jésus, est notre meilleur exemple. Comment a-t-il couru? Il a persévéré dans l'opposition tout au long de sa vie. Il a persévéré alors que la souffrance s'annonçait. Il a persévéré jusqu'à être prêt à accepter la honte de la croix, parce que c'était une honte que d'être mis sur la croix. La perfection est dans le Seigneur Jésus, et sa persévérance a été récompensé et il est aujourd'hui à la droite de Dieu, son Père. Jésus est notre exemple par excellence. Est-ce que j'ai cru? Est-ce que je suis en route? Est-ce que je vis ma vie avec cet objectif de suivre son exemple, de le suivre, lui? Ces héros de la foi, comme on les appelle parfois, étaient-ils vraiment des héros? Gédéon, non. Quand l'ange est venu vers lui pour lui dire qu'il délivrerait Israël, il a d'abord douté que c'est Dieu qui lui parlait, ou il n'a pas réalisé que c'est Dieu qui lui parlait. Et quand on lui a dit de s'y mettre, finalement, il a offert un sacrifice, mais pendant la nuit. Et après encore, il y a eu tant d'hésitation. Jephté, un autre juge, il s'est engagé à tuer la première personne qui viendrait à sa rencontre. Et sa première personne, ça a été sa fille. Et il n'a pas hésité à appliquer l'engagement qu'il avait pris. Pas un exemple vraiment. Pas un homme qui était un héros. David, nous savons combien David est honoré dans la parole de Dieu. Et pourtant, David se montre celui qui a commis un adultère et qui a fait tuer le mari de celle qui est devenue son épouse. Et nous pourrions continuer la liste. Ce ne sont pas des hommes et des femmes parfaits. Ce ne sont pas des héros au sens commun du terme. Et nous oublions facilement, ou nous ne voulons pas savoir, nous n'avons jamais compris que nous aussi, peut-être, nous sommes dans le cas de ce que dit notre auteur au verset 4. Vous aussi, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. La vie de la foi est un combat. La vie de la foi, cela ne va pas sans mal, ça ne va pas sans souffrance. Le combat de la foi est une réalité dont parle l'apôtre Paul plusieurs fois. À Timothée, par exemple, il dit « combat, le bon combat de la foi ». S'il s'agit de combattre, c'est qu'il y a de l'opposition, c'est qu'il y a de la résistance, c'est qu'il y a des difficultés, c'est qu'il y a des dangers. Dans la lettre aux Éphésiens à la fin, il dit que nous avons à lutter, non pas contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre le diable et toutes ses puissances mauvaises. Et nous l'oublions facilement. La lutte contre le péché ne nous est pas épargnée, ni à vous, ni à moi. Ma foi en Dieu n'est pas parfaite, je ne suis pas parfait, et j'ai donc besoin d'une vie qui soit changée, corrigée. Nous oublions volontairement qu'il y a ce combat, mais nous oublions aussi ce que l'apôtre dit ici, ce qui nous est dit. « Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. » Alors quand on lit ça, on se dit « Super, nous sommes encouragés. » Si vous lisez la fin du verset 5, « Mon fils, voilà l'encouragement, « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime, il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Il n'y a pas là de quoi trembler plutôt que de se dire, ben voilà, c'est un véritable encouragement pour moi. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Des paroles qui sont difficiles à entendre, je ne sais pas comment vous les recevez. Moi, j'ai de la peine avec ces versets-là. C'est un sujet si délicat, si personnel, car là, je suis en face, et nous sommes chacun en face de la réalité, de ses faiblesses, de ses fautes, du besoin d'être rectifié dans la façon d'aborder la vie. Et alors viennent aussi tant d'autres questions que nous nous posons souvent dans la vie. Pourquoi Dieu permet-il ? Est-ce que c'est pour augmenter ma confiance? Est-ce que c'est pour que je me sente plus dépendant de lui? Est-ce que c'est pour m'amener à changer, à abandonner ce qui ne lui plaît pas? Il n'y a pas de réponse toute faite à ces questions. Alors bien sûr, toutes les situations difficiles ne viennent pas de Dieu, Et il ne s'agit surtout pas d'aller dans ce sens-là. Le diable est à l'œuvre, nous l'avons déjà dit. Il s'oppose à ceux qui suivent le Seigneur. Mais le risque est quand même là que je me dise ben, « Non, ce n'est pas une parole d'encouragement. » Et alors je me laisse décourager, je stagne dans ma vie. Je me satisfais d'un peu de christianisme. Oui, je suis chrétien, mais... Et il y a le risque du laisser aller, pour certains même, jusqu'à l'abandon. Oui, il faut que Dieu intervienne dans ma vie, et pas qu'une fois. Je ne sais pas si vous en êtes convaincus, vous-même. Mais, et c'est ce « mais » que je voudrais souligner, et qui nous a été rappelé ce matin de différentes façons, déjà très fort. En effet, le Seigneur corrige qui ? Celui qui l'aime, qu'il aime. Dieu aime ceux qui lui appartiennent. Dieu aime chacun d'entre nous qui lui appartenons, qui avons attaché notre vie à celle du Seigneur Jésus. Il nous est dit au verset 7, il nous traite comme ses enfants. Que son éducation est bonne, parfaite, qu'elle est meilleure que celle de nos parents. Je ne sais pas quel souvenir vous avez de l'éducation que vous avez reçue un jour. Il y a des bonnes choses et il y en a qui sont beaucoup moins bonnes et beaucoup moins agréables à évoquer. Mais Dieu corrige et punit même celui qu'il aime, ses fils et ses filles. Pourquoi ? Pourquoi veut-il agir ainsi dans nos vies ? Nous le lisons un petit peu plus loin, pour produire un fruit porteur de paix, la justice. Dieu veut nous justifier, veut nous rendre comme il voudrait que nous soyons au travers de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. L'éducation du Père prend divers aspects. Et la liste des héros de la foi, si je peux encore reprendre le terme du chapitre 11, si nous en doutons, nous le montre de façon très claire. Abraham, il a quitté Ur en Chaldée avec son père, et puis plus tard, quand son père s'était établi à Haran, il a quitté Haran. Il a quitté Haran à l'âge de 75 ans. Et Dieu lui a promis un fils. Pendant combien de temps est-ce qu'il a attendu ce fils ? Ben pendant 25 ans, ou 24, puisqu'à 99 ans, il a eu la promesse, maintenant ça va se réaliser. Il a attendu pendant 25 ans. Vous est-il arrivé d'attendre une réponse de Dieu pour le lendemain ou pour le moment même ? Abraham a attendu pendant 25 ans. Joseph, Dieu l'avait choisi pour sauver son peuple. Mais par où a-t-il passé le Joseph ? Vendu par ses frères, mis en prison, oublié dans sa prison. Probablement pendant une douzaine d'années que cela s'est passé ainsi. Pendant une douzaine d'années. Dieu a permis que le fils de David meure alors que David a supplié Dieu, que ce fils qu'il a eu à de Bathsheba puisse vivre. Et Dieu n'a pas entendu, Dieu a laissé ce fils mourir. L'apôtre Paul va écrire 2 Corinthiens 12, verset 7. « Pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. » Au sujet de cette prière, cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Et si nous en doutions encore, Jésus, quand il s'adresse aux chrétiens de l'église de Laodicée, qui est très, très, très fragile et très branlante, Jésus fait écrire à ces chrétiens de Laodicée, « Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. » Les épreuves que Dieu permet, les difficultés que Dieu permet, sont des moyens d'éducation, même si nous ne les comprenons pas. Ne nous décourageons pas, mais accrochons-nous. Et vous comprenez bien que je ne dis pas facilement. Dieu corrige celui qu'il aime. Il nous aime et veut notre bien. Le croyons-nous ? Ne l'oublions pas, ne nous décourageons pas. Jésus aime les membres de son Église et il les corrige s'il le faut. Qu'est-ce que nous en faisons de cela ? Elio, 7 ans, avait été très désagréable avec son petit frère. Il est puni et doit recopier plusieurs fois la phrase « Je dois être gentil avec mon petit frère et bien lui parler. » Il écrit docilement, puis pose la question « Est-ce que je dois faire ce que j'écris ?»« Bien sûr, » répond le papa. Le papa s'approche, il regarde la page, et puis quelle surprise. Le garçonnet a ajouté une négation dans la phrase « Je ne dois pas être gentil avec mon petit frère. » C'est le contraire, oui. Comment réagissons-nous par rapport à ce que le Seigneur attend de nous ? Quand nous relisons le chapitre 12, et je ne vais pas le relire encore, mais je vous invite à le relire encore, et souligner tous les verbes à l'impératif, tous les ordres, alors ça dépend des versions, parfois c'est un peu moins incisif, un peu moins net. Ne prends pas la légère, ne te décourage pas, ça c'est déjà verset 5. Supportez vos souffrances, verset 7. Relevez vos mains qui faiblissent, raffermissez vos genoux, verset 12. Veillez, verset 15, veillez, verset 15, et je pourrais en rajouter d'autres. Comment est-ce que je réagis ? Suis-je assuré d'être aimé de Dieu, vraiment ? Ou est-ce que je me rebelle ? Ou est-ce que je suis dans le découragement quand Dieu intervient, ne répond pas ? Est-ce que je suis tenté de me détourner de lui ? Nous ne saisissons pas toujours que Dieu nous éduque. Mais courage, ressaisissons-nous. L'épreuve de la foi, l'apôtre Paul écrit, aucune tentation, mais on peut aussi mettre aucune épreuve, dans 1 Corinthiens 10, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ça, c'était leur problème à eux. Quel est le résultat ? On l'a déjà souligné, le fruit porteur de la paix, c'est la justice. Une vie juste vécue avec Dieu dans la paix. Reconnaissons que si Dieu intervient dans notre vie, c'est qu'il nous aime, qu'il nous corrige. Et regardons aussi, posons-nous la question, dans quel endroit de ma vie ai-je besoin d'accepter cela d'une façon nouvelle et de me soumettre à lui ? Mais il ne s'agit pas seulement d'en rester à un stade où on est inactif et on dit « oui, ben c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement ». Il y a autre chose qui nous est dit à la fin de ce passage qu'on a lu. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Ou, traduit autrement, faites tous vos efforts pour vivre une vie de plus en plus sainte. Il s'agit de quoi ? Il s'agit non pas de rester sur place, mais de progresser encore. D'avancer toujours dans la sainteté. Et cela, si nous le faisons, cela se traduit dans la vie de tous les jours. Est-ce que nous faisons notre l'objectif que Dieu poursuit ? Est-ce que nous laissons agir en nous cette sanctification, comme c'est écrit dans les anciennes traductions ? C'est-à-dire, est-ce que nous laissons notre foi se développer ? dans tous les domaines de notre vie. De quoi s'agit-il ? Rien moins que d'avoir une vie qui est conséquente, où chaque jour, à chaque instant, mon but, c'est de servir le Seigneur et de croire en lui et d'avancer avec lui. Et il y a dans les anciennes traductions, mais aussi dans celle-là, un ajout à ce verset. Donc je suis au verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la progression de la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Ça ne veut pas dire, et alors ça a donné lieu à des débats théologiques assez importants, et je ne veux pas m'attarder sur les débats théologiques ici, mais en d'autres termes, cela rejoint ce que l'apôtre Jacques dit dans Jacques 2, verset 14, que la foi sans les œuvres, la foi sans un effet dans notre vie, cette foi est morte. Si la foi que je prétends avoir en tant que le Seigneur Jésus n'a pas d'impact dans ma vie, ben, c'est qu'il n'y a rien au fond. Sans cette foi active, nous ne verrons pas Dieu. L'enjeu est grand. Verrons-nous Dieu ? Sommes-nous dans cet objectif de rencontrer le Seigneur, de pouvoir nous réjouir avec lui, comme on l'a chanté de différentes façons tout à l'heure ? Et alors se pose la question, mais où faut-il progresser ? Dans quel domaine ? Et là aussi, le texte nous dit beaucoup de choses. Il nous dit, faites-vous des voies droites, des pistes droites pour votre course. Raffermissez vos genoux qui fléchissent. Relevez vos mains qui faiblissent. J'ai peut-être besoin d'abord de regarder en moi. Où est-ce que j'ai besoin de reprendre de la force ? Où est-ce que j'ai besoin de me muscler, si vous voulez, en d'autres termes ? Ensuite, verset 15, il nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne vivons pas comme si nous n'avions pas besoin de cette grâce et comme si nous n'étions pas avec l'objectif de demander au Seigneur de nous pardonner chaque fois que nous avons besoin de pardon. Et puis, nous dit encore « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons et ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Des racines d'amertume, de l'aigreur qui monte dans nos cœurs. Il est question aussi des relations avec les autres. Vivre en bonne relation les uns avec les autres, en nous aimant, en nous encourageant aussi les uns les autres à avancer avec le Seigneur. Parce qu'il dit plus loin, veillez à ce que personne, qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü. Il s'agit de veiller peut-être aussi les uns sur les autres et d'avoir cela à cœur vraiment. Pas d'immoralité. À l'époque, dans la société grecque, l'immoralité sexuelle, dont il est surtout question, était chose courante, on vivait à peu près n'importe comment. Aujourd'hui, on n'est pas très loin de cette façon de vivre. Et nous avons besoin de réagir et de nous laisser reprendre et de nous laisser encourager à vivre dans la pureté. Il s'agit aussi pour nous de ne pas mépriser, comme l'a fait ce pauvre Ésaü, les promesses de Dieu. En tant qu'aîné, c'était la meilleure place dans la famille qui lui était accordée. Et ce droit d'aînesse qu'il avait, il l'a vendu pour une bouchée de pain, dirions-nous aujourd'hui, à son frère. Dans un moment où il se dit, bon, après tout, si je ne peux pas manger maintenant cette soupe, eh bien, je vais mourir. Quelle idée ! Pour résumer quelque peu, ma foi doit se voir et ma foi est appelée à progresser, à aller de l'avant. La relation avec notre Dieu vécue, si cette relation est vécue, ça se manifeste et ça se perçoit. Sans progression dans la sainteté, nous ne pouvons pas nous approcher du Seigneur et prétendre être son enfant. Et pour finir, j'aimerais simplement relire au tout début, dans les versets 1 et 2, et que cela puisse être notre décision aujourd'hui, notre but que nous cherchons à poursuivre dans notre vie. Nous donc aussi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. C'est en regardant à lui, en nous attendant à lui, que nous pouvons arriver à ce but. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, notre Père, quelle grâce de nous rappeler que toi, tu nous aimes. Quelle grâce de nous rappeler que toi, tu interviens dans nos vies, par amour, parce que tu nous veux auprès de toi. Tu veux qu'un jour nous te voyions. Seigneur, Père, poursuis ton œuvre dans mon cœur et dans la vie de chacun d'entre nous qui voulons te suivre. Sincèrement, purifie, libère, pardonne nos manquements. Nous voulons te les apporter et te demander, fais-nous grâce maintenant. Nous voulons continuer à fixer le regard sur Jésus, notre Seigneur. Seigneur, je te prie que tu bénisses chacun d'entre nous maintenant, que tu nous accompagnes dans cette journée, dans la semaine qui vient, que nous n'oublions pas ta parole, non pas mes paroles à moi. Je te prie au nom de Jésus. Amen.